With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Bonjour, bienvenue sur le podcast Sur la Ligne, le podcast champ gauche du Cannes Football Club qui s'intéresse aux deux côtés du football et du soccer, celui des tribunes, des enjeux et celui du terrain. Nous sortirons de notre confinement pour partir en Égypte et découvrir son football, ses stars, ses joueurs, ses joueuses. Mon invité est journaliste, spécialiste du Moyen-Orient et de l'Égypte et de ses footballs. Tu collabores à RFI. Bonjour Frédéric Nkama.
Bonjour.
J'ai aussi le plaisir d'être accompagné de Camille Cordouan qui participera à l'animation du podcast et l'enrichira comme elle sait si bien le faire. Salut Camille.
Salut Alex.
Eh bien, ouais,
bonjour Frédéric.
Bonjour Camille.
Je vous propose de commencer. Camille, je te donne la parole.
Ben merci. Bon, première question sur ce football en Égypte. Frédéric, en fait, qui joue au football en Égypte?
En fait, tout le monde. Hein. Alors, c'est ouais. L'Égypte, c'est un pays qui compte au bas mot 105 millions d'habitants. Et donc, c'est un pays très sportif où le sport fait partie de l'éducation, des piliers de l'éducation de chaque Égyptien, en fait. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'Égyptiens briller dans beaucoup de disciplines différentes, que ce soit dans les compétitions continentales ou parfois aux Jeux Olympiques où les Égyptiens arrivent à remporter des médailles. Et bien évidemment, le football fait partie des sports les plus prisés en Égypte, parce que tout simplement, le football est facile et accessible à tout le monde. Et donc voilà, tout le monde en tout cas suit le foot, que ce soit les hommes ou les femmes ou toutes les catégories d'âge. Ceux qui ne jouent pas au foot sont au moins pour une équipe. Ça peut être El Ahly, ça peut être le Zamalek, ça peut être l'équipe nationale, ou ça peut être aussi des équipes locales. Je pense notamment à ceux qui habitent à Alexandrie, par exemple, et qui vont supporter Etihad, ceux qui habitent dans la ville d'Ismaïlia, qui vont supporter Ismaili. Donc voilà, c'est vraiment le football, c'est vraiment le sport roi en Égypte.
Et justement, il y a quand même une. Bon, donc tu dis que tout le monde joue, suit le foot. On parlera du coup, ça nous donnera l'occasion de parler du foot féminin, mais un peu, bon, qui nous tient tous à cœur. Voilà, mais peut-être un peu après, à la fin de notre discussion. Et donc, bon, ben, parmi, je dirais, parmi la panoplie de l'amateur de foot, il y a le stade. Mais en Égypte, il y a une histoire un peu particulière maintenant entre le stade et les supporters. Donc, est-ce que tu peux un peu nous expliquer l'avant-après Port Saïd? Ouais, voilà.
Ouais, c'est vrai que c'est bien de. Il faut dissocier ces deux périodes parce que moi, par exemple, quand je suis arrivé en Égypte, c'était en 2009. Donc, j'ai assisté à des derbies Ahly et Zamalek, qui sont les deux équipes les plus. Enfin, qui ont les plus grands palmarès sur le continent africain. Et c'est deux équipes qui viennent de la capitale, qui viennent du Caire. Et donc, c'était des matchs qui se jouaient devant un stade garni, bondé de supporters, où les supporters venaient le matin pour attendre jusqu'au soir le coup d'envoi du match. Et il y avait vraiment une ferveur des tifos, parfois de la tension entre les supporters. C'était vraiment un match où la ville s'arrêtait de vivre. Je peux te dire, c'était la seule fois où la ville s'arrêtait de vivre pour suivre ce match. Et bien évidemment, après le drame de Port Saïd, l'État, les autorités militaires.
Tu peux peut-être rappeler rapidement le drame de Port Saïd. Qu'est-ce qui s'est passé à Port Saïd?
Alors, le drame de Port Saïd, c'est un match de championnat qui a mal tourné. Donc, c'est un match de championnat qui a eu lieu le 1er février 2012 entre El Ahly et l'équipe d'Al Masri, qui est l'équipe de la ville de Port Saïd. Donc, la ville de Port Saïd qui se trouve trouve au nord-est de l'Égypte. Donc le match se disputait là-bas. Et à la fin du match, il y a eu un envahissement de terrain meurtrier qui a tué 74 supporters, dont 72 du Al Ahly. Et donc c'est un match qui est malheureusement est entré dans les mémoires dans la mémoire des Égyptiens et qui a chamboulé ou bouleversé le football en Égypte, puisque depuis ce jour-là tous les matchs de championnat se jouent sans supporters. Alors il y a une exception au sortir de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 s'est disputée devant des supporters. Donc, on va dire que la fédération et les autorités avaient lâché du lest en permettant, on va dire, à une poignée de supporters d'assister à chaque rencontre. Mais avec le Covid, on est retourné à un huis clos généralisé. Alors, certains vont dire qu'il y a des matchs qui se sont joués devant des supporters depuis 2012. Depuis ce drame de Port Saïd, oui, effectivement, mais c'était des exceptions en fait. C'est-à-dire que les matchs continentaux, les matchs du Al Ahly, par exemple, en Coupe d'Afrique, en Ligue des Champions africaine, par exemple, ou pour des matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, pour la Coupe du Monde, des pharaons d'Égypte. Les autorités accordaient en fait au cas par cas 20 000 supporters, 30 000 supporters par là, et à chaque fois les matchs se jouaient, se disputaient dans la ville de Borg El Arab, qui se trouve non loin d'Alexandrie, où se trouve en plein milieu d'une zone agricole un stade de 80 000 spectateurs. Et donc, pour répondre à la question de Camille, oui, après le drame de Port Saïd, tout simplement, la ferveur qu'on avait l'habitude de voir dans les stades s'est évaporée. Il n'y a plus cette ferveur-là. Elle existe toujours sur les réseaux sociaux, dans les cafés. C'est là où les supporters se regroupent pour regarder les matchs importants, les gros matchs.
D'accord, donc c'est en fait maintenant une culture supporter qui n'est plus dans les stades, mais plutôt dans les... Alors, le Covid passe aussi par là, j'imagine, parce que, bon, finalement, pour les stades, l'impact est moindre, mais pour tout ce qui est se regrouper dans des cafés ou partager ensemble, suivre un match de télévision ensemble, là, j'imagine que ça a dû changer, la pandémie a dû changer des choses aussi en Égypte.
Ça a changé énormément de choses, parce que le gouvernement a été à un certain moment très agressif envers les cafés, envers tout ce qui est regroupement, de toute façon, regroupement de supporters ou de personnes. Je pense que c'est le cas également dans la majorité des pays dans le monde à cause du Covid. Donc l'année dernière, il y a eu une trêve forcée, on va dire, qui a poussé la Fédération égyptienne de football de marquer la trêve du championnat pendant 5 mois. Il n'y a pas eu de match pendant 5 mois, le pays était confiné, et au retour du championnat, il y a eu des matchs importants comme le match de la finale de la Ligue des Champions, et d'ailleurs c'était la première fois entre deux équipes d'une même ville, entre Al Ahly et Zamalek. C'était l'année dernière, en novembre de l'année dernière. Et donc, par exemple, le gouvernement a fermé les cafés, a fermé les restaurants pendant le match pour éviter que, justement, les supporters se réunissent. Le gouvernement a imposé un couvre-feu aussi. Donc, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est devenu encore plus compliqué, je veux dire, pour les supporters de vivre cette ferveur et de justement... je veux dire, nourrir cette culture du supporterisme et d'être tout simplement derrière son équipe.
Mais donc, après, ça me permet de te demander, le cœur balance plus pour le club ou pour l'équipe nationale en Égypte, ou c'est pareil, moitié-moitié?
Je pense que c'est la même chose. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut savoir, le club le plus populaire en Égypte, c'est Al Ahly. Alors, on n'a pas énormément... Enfin, On n'a pas des chiffres exacts, mais en général, on dit que 60%, voire 70% de la population supporte El Ahli. Donc, El Ahli, c'est le national d'Égypte. C'est vraiment le club qui représente le pays tout entier. Et donc, voilà, je veux dire que il est pas étonnant de voir des supporters qui vont dire que moi, je préfère El Ahli que l'équipe nationale. Lorsqu'il s'agit de l'équipe nationale, en particulier lorsqu'il s'agit d'un match, d'une compétition, par exemple, pour se qualifier à la CAN ou à la Coupe du Monde, c'est vrai que les Égyptiens sont tous derrière l'équipe nationale et ils sont très chauvins, en fait. Donc, l'équipe nationale est considérée comme je dirais un monument, en fait, un monument comme les vestiges de l'Égypte, au même titre que les momies ou que le musée, par exemple. Donc, l'équipe nationale, c'est vraiment quelque chose qui permet à l'Égypte de briller à l'international. Donc, c'est pour ça que les supporters se rangent tout de même derrière l'équipe nationale pour être sûr que l'équipe nationale va briller et va représenter l'Égypte à l'international.
Mais c'est quand même une équipe qui a un certain nombre de stars. Alex, je...
Oui. Moi, j'avais juste deux petites choses. J'ai eu la chance de pouvoir aller en Égypte et j'ai joué un tournoi de ping-pong amical dans un hôtel. Et j'ai été très, très étonné que quand j'ai joué contre un Égyptien, je me suis retrouvé entouré d'Égyptiens qui criaient « Égypte, 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 Égypte !» Alors que c'était un mini tournoi d'un petit hôtel ringard, quelque part, à côté d'El Gouna. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une espèce de... Voilà, on appelle ça un chauvinisme qui était assez impressionnant. Et j'ai eu l'occasion de faire un double. Et là, je représentais pas la France, mais le Maroc. Et là, le Maroc, j'ai eu moins de folie autour de ce match-là. Mais il y avait quand même de l'Égypte. Et j'avais une autre question. Au stade, quand on pouvait y aller, qu'est-ce qu'on pouvait boire et manger?
Bon, en général, je veux dire, au stade, alors, je vais répondre d'abord à ta deuxième question. Au stade, par exemple, en général, c'est l'Égypte, c'est quand même un pays où il y a beaucoup de... Enfin, surtout le Caire, il y a beaucoup de comment dire? Il y a beaucoup de publicité, beaucoup d'annonceurs. Et au stade, justement, on mange la nourriture de ces annonceurs-là. Je pense notamment à Pepsi, je pense notamment aux chips Doritos et tout ça, en fait. En général, c'est pas une ambiance kermesse comme on peut le trouver en France ou dans d'autres pays. Pour répondre à ta première question, en matière de chauvinisme, les Égyptiens sont très chauvins, sont très nationalistes, ils aiment énormément leur pays. Et le sport est un moyen pour eux de briller à l'international. Donc, c'est vraiment un moyen aussi de se défouler, parce que la vie, elle n'est pas forcément facile en Égypte. Et c'est pour ça que les supporters égyptiens n'hésitent pas à se ranger derrière les Égyptiens dès lors qu'il y a un match, une confrontation entre un Égyptien et un étranger.
D'accord. Justement, moi, je vais revenir au star. Mohamed Salah, c'est évidemment la star, je suppose, du football égyptien. Qu'est-ce qu'il représente, Mohamed Salah, en Égypte?
Alors, Mohamed Salah, faut dire qu'il représente énormément de choses. C'est vraiment le modèle de réussite en Égypte parce qu'il est parti de rien. Il a été formé dans le club de Arab Contractors. Donc c'est un club, c'est un club qui appartient à une entreprise d'État de travaux publics et qui a parmi les meilleures académies du pays. Donc Mohamed Salah, il a été formé là-bas et il n'est pas passé par Al Ahly ou par le Zamalek avant d'aller à l'étranger. Donc c'est ça aussi qui fait la particularité de son parcours et c'est quelqu'un qui à force d'abnégation et à force de courage à force d'adaptation également, a pu réussir. Là où beaucoup de jeunes Égyptiens qui étaient parfois plus talentueux que Mohamed Salah ont échoué. Donc Mohamed Salah, c'est un modèle de réussite, pas seulement en Égypte, mais par exemple en Arabie Saoudite, il est très populaire. Dans les autres pays arabes, il est très populaire également. Et il représente beaucoup de choses parce que c'est lui qui canalise vraiment toutes les publicités, qui canalise énormément de choses. C'est quelqu'un qui est capable de forcer l'équipe nationale ou la fédération égyptienne de football à prendre une décision qui va aller en sa faveur. Donc c'est ce qu'il représente, Mohamed Salah. Alors Mohamed Salah, il faut savoir qu'en Égypte, il n'est pas forcément considéré comme le meilleur joueur de l'histoire, parce que l'Égypte a quand même eu des grands noms du football, hein. Je pense notamment à un joueur comme Hassan. Enfin, il y a énormément de noms que je pourrais citer, tout simplement. Donc Mohamed Salah n'a jamais brillé sur la scène continentale, je veux dire en club, n'a pas gagné de Ligue des Champions avec Al Ahly ou avec le Zamalek, par exemple. Donc, je pense que c'est ce qui lui manque. Maintenant, c'est quelqu'un qui essaie de donner énormément à son pays et il essaie toujours de revenir en équipe nationale. Il est devenu il y a quelques semaines le deuxième meilleur buteur de l'histoire égyptienne de football, je veux dire avec les pharaons d'Égypte. Donc c'est quand même quelqu'un qui fait l'unanimité, je veux dire en Égypte.
Exact. Et maintenant il est capitaine. Il sera capitaine.
Les actions caritatives qu'il fait et tout ça. Donc c'est vraiment quelqu'un de très apprécié en Égypte.
Très bien. Et il sera bientôt donc capitaine de l'Égypte. Ça a été décidé.
Le nouveau capitaine de l'équipe d'Égypte.
Justement, tu nous as dit que lui, il n'avait pas gagné de Champions League africaine, Coupe des champions africaines, la CAF. Le championnat local, il est performant et c'est un championnat qui a beaucoup gagné avec, évidemment, ces deux équipes phares. Comment est-ce que toi, tu le situes sur la scène africaine?
Pour moi, c'est tout simplement le meilleur championnat d'Afrique parce qu'il y a énormément d'équipes compétitives. Alors, c'est vrai qu'Al Ahly domine outrageusement le championnat, mais il y a quand même des équipes avec énormément de moyens. Je pense notamment, au-delà du Zamalek et du Ahly, je pense notamment à Pyramids, qui est un club qui est un club nouvellement venu sur la scène africaine qui a échoué l'année dernière en finale de la Coupe de la Confédération, mais c'était seulement sa première participation. Je pense notamment à un club qui s'appelle Céramica qui appartient à un mania égyptien. Je pense notamment à Ismaili, qui est quand même le premier club égyptien à avoir remporté la Ligue des Champions sur le continent africain. Il y a énormément d'équipes, il y a beaucoup d'équipes. Le championnat égyptien, c'est vraiment un mélange d'équipes historiques, de nouvelles équipes, d'équipes de riches. Donc, il y a tous les ingrédients nécessaires pour faire un très bon championnat. Et puis, les niveaux de salaire sont très élevés, donc ce qui permet de recruter des joueurs, des internationaux africains, parfois même sud-américains, et de faire en sorte que le championnat égyptien soit très compétitif.
Justement, quelles sont les vedettes du championnat égyptien, les vedettes étrangères?
Alors, je pourrais citer des joueurs, par exemple, des internationaux tunisiens, il y en a énormément. Je pense que le plus connu, on va dire le plus performant, c'est Ali Marloum, qui évolue au Al Ahly, qui est arrière gauche. C'est l'arrière gauche des Aigles de Carthage de Tunisie. Et bien d'autres, hein. Il y a par exemple Eric Traoré, qui le Burkinabé, qui a évolué à Karim. Il y a énormément de bons joueurs.
Mais moi, je me demandais comment se finance en fait ce championnat. Pourquoi il y a autant d'argent donc tu parlais d'un mania qui était derrière un club important, mais est-ce que c'est comme ça que se finance ce championnat? Des hommes d'affaires qui investissent
alors...
beaucoup?
Ouais, alors les hommes d'affaires investissent beaucoup sur ce championnat parce que voilà, le sport est considéré en Égypte comme un soft power. C'est le moyen en fait de gagner rapidement en popularité. Donc c'est pour ça que tous les grands businessmen sont intéressés par le football et par le championnat égyptien. Il y a énormément de revenus et le championnat égyptien est diffusé dans la majorité des pays arabes ou les pays du Golfe. Donc, c'est vraiment la possibilité pour un homme d'affaires d'être très bien vu, en fait. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de ce mania qui, Mohamed Aboul Ennein, c'est un ancien cacique du pouvoir égyptien sous Moubarak. Et lui, en fait, il est à la tête d'un empire industriel qui s'appelle Céramica Cléopatra. Donc c'est tout ce qui est marbre, tout ce qui sert pour le bâtiment, pour faire sa maison. Donc c'est vraiment quelqu'un d'incontournable en Égypte. Tout le monde va acheter chez lui, en fait. Et donc du coup lui, il a monté à coups de millions son équipe qui s'appelle également Céramica Cléopatra. Et c'est un moyen pour lui d'être très bien vu. C'est se refaire une très bonne image, l'éloigner aussi du fait que voilà, c'est quelqu'un du pouvoir, c'est un cacique du pouvoir. Les gens vont plutôt avoir l'image de lui d'un président club, un club qui est capable de tenir tête à d'autres équipes comme Al Ahly ou Zamalek, par exemple. Donc ça sert à ça, en fait. Les manias ou les businessmen sont intéressés par ce championnat pour justement cette histoire d'image. Après, il y a aussi des fonds étrangers. Je pense notamment à Pyramide qui a été racheté. En fait, c'est Pyramide, c'est une équipe qui est basée au Caire, mais à la base, c'est une équipe qui était basée à Assiout, qui s'appelait Al Assiouti. Donc, c'est un club qui a été racheté en 2018 au sortir de la dernière Coupe du Monde. Ce club a été acheté par un Türkçe, qui est l'actuel ministre du divertissement en Arabie Saoudite, donc c'est un Saoudien. Il a acheté à coups de millions, de dizaines de millions, ce club-là, qu'il a bâti avec énormément de joueurs, de grands joueurs, de grands noms, des joueurs qui venaient d'Amérique du Sud, des internationaux égyptiens. Qu'il payait, enfin, à qui il multipliait le salaire par deux ou par trois. Donc, il a battu une équipe très rapidement à coups de dizaines de millions d'euros. Et au final, il a revendu l'équipe à des Émiratis. Et c'est eux qui sont actuellement à la tête de l'équipe. Donc, voilà, il y a toutes sortes de fonds, en fait, des fonds étrangers, des fonds qui proviennent des pays du Golfe. Des fonds personnels qui proviennent de mania en fait de l'économie égyptienne et voilà, tout le monde veut avoir sa part du gâteau lorsqu'on parle de visibilité, en fait visibilité, avoir une bonne image, et c'est pour ça que les gens sont motivés à investir.
D'accord, moi je voulais vous proposer d'aller faire un petit tour à Montréal, puisque Montréal a recruté un international espoir égyptien, Ahmed Abdi, qu'on n'a pas encore vu jouer au moment où on enregistre le podcast. Et je sais que nos amis montréalais sont très très impatients bien, d'avoir des renseignements sur lui, de le voir jouer. Alors, Ahmed Abdi, qu'est-ce que toi qui l'as vu jouer, tu peux me dire sur ce joueur?
Alors ça, c'est un produit du Al Ahly. Il a été formé là-bas. Il a été formé là-bas. Il a disputé quelques matchs.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Mais bon, il avait pas énormément de temps de jeu, donc il est parti dans une équipe qui s'appelle El Gouna. El Gouna, c'est une équipe qui offre un cadre de vie, un très bon cadre de vie, parce que c'est une station balnéaire, donc les joueurs aiment aller là-bas et en même temps c'est un club qui parle beaucoup sur la jeunesse. Donc il est parti continuer sa formation là-bas à El Gouna. Il est resté là-bas une année et demie et il a brillé en fait. Il faisait partie des meilleurs éléments d'El Gouna c'est la raison pour laquelle il a été, Montréal est venu le chercher. Et en ce moment, comme Mohamed Salah inspire tous les jeunes, comme Mohamed Salah représente un modèle de réussite, du fait de partir, parce que Mohamed Salah, il est parti en Suisse avant de connaître la carrière qu'on lui connaît. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui n'hésitent plus à partir à l'étranger. Et c'est le cas d'Ahmed Hamdi. Il est parti à Montréal. C'est pas forcément un choix facile pour lui parce qu'il est très loin de l'Égypte. Et en général, les Égyptiens sont très attachés à leur pays. Mais, il est parti là-bas dans l'espoir de s'aguerrir, continuer à s'aguerrir. Essayer d'aller jouer en Europe. Et puis voilà.
Et ses qualités?
Alors, il est assez petit, il est assez véloce, il est très vif. Donc, c'est les qualités qui font de lui, c'est les qualités pour lesquelles il a réussi à Gouna, parce que là, je pouvais très bien en fait. Et justement, des révélations de l'année, en fait, parce que El Gouna proposait un très bon jeu. Était parmi les pièces maîtresses d'El Gouna.
Ok, parfait. Et donc, toi, donc on peut espérer évidemment qu'il réussisse. Le fait qu'il ne parle pas anglais, est-ce que c'est surprenant pour un joueur égyptien, ou est-ce que c'est les Égyptiens parlent peu de langues à part l'Égyptien, l'arabe littéraire?
Dit que le contraire aurait été surprenant. Pour moi, le contraire aurait été surprenant. Les Égyptiens sont nombreux, mais après, le football, ça reste quand même, ça reste quand même une niche, et donc la plupart des, la plupart des footballeurs parlent de langue étrangère. Parfois, ils ont un niveau d'éducation très faible de pratiquer d'autres langues, malheureusement. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait changer parce que ça leur porte préjudice au final.
Bien, surtout si les joueurs sont amenés à s'exporter entre guillemets de plus en plus. Bon, on peut s'attendre à ce que ce qui parle différentes langues, l'anglais notamment.
Que ça devrait changer.
Oui, ça devrait. Je pense oui, mais ça change. C'est quelque chose qu'on voit peut-être même en France aussi. Je pense que les joueurs qui partent à l'étranger, bon, ça date pas d'aujourd'hui, mais ni d'hier, mais peut-être que davantage, c'est une question de génération aussi. Ils sont plus ouverts sur les langues étrangères et en particulier l'anglais. Donc, je pense que c'est peut-être un trait commun.
Ouais, il faut espérer que voilà, bah, qui s'adapte rapidement. Moi, ouais, c'est vrai que j'avais quelques inquiétudes parce qu'on a l'exemple de pas mal de joueurs égyptiens qui ont eu des difficultés. Moi, j'ai connu Hosni Abd Rabot, qui est une des légendes du football égyptien et qui a lamentablement raté dans mon Racing Club de Strasbourg. Et j'ai aussi lu quelque chose qui m'a amusé. C'est notre ami Eric Chenoy qui disait qu'il avait joué pendant une saison dans une ligue latino à Montréal et que il avait vraiment l'impression de ne plus rien comprendre au football. Et donc j'espère que lui va réussir à se faire bien à la vie évidemment montréalaise, à ses coéquipiers sympathiques, mais aussi à ce nouveau football. Et donc toi, tu es optimiste? Est-ce que finalement les derniers qui sont partis ont mieux réussi que les Abd et Hosni Abd Rabot?
Bon, il y a pas, malheureusement, il n'y a pas énormément d'exemples probants. Hein. Je veux dire, il y a Mohamed Salah, il y a El Nemi, il y a Karim Hafez qui évolue au Japon. Même lui, ça n'avait pas forcément marché à l'époque où il était au RC Lens. Il n'y a pas énormément d'exemples probants.
C'est justement.
Je voudrais être optimiste, mais.
Moi, j'ai un exemple probant que vous allez bientôt découvrir en Égypte. Vous le connaissez déjà, mais il n'est pas encore international. Ah, c'est Omar Marmouche qui joue pour Saint-Pauli et qui est une des découvertes de la Bundesliga B, donc la deuxième division allemande, et qui a une particularité, c'est qu'il est égypto-canadien ou canado-égyptien. Vous ferez votre choix vous-même. Donc moi, j'ai eu l'occasion de demander à Quentin Guégan ce qu'il pensait de ce joueur, qui est donc accessible à la sélection égyptienne, évidemment, mais aussi à la sélection canadienne. C'est pour ça que j'en parle. Il y a évidemment un secret. Donc lui, il m'a dit, c'est un top joueur. Il a changé le visage de Sampaoli, qui est depuis 15 matchs la meilleure équipe de D2. Il est vif, percutant, bon face au but, et c'est vraiment un top joueur. Le FC Saint-Pauli Francophonie Fan Club, qui est sur Twitter, lui m'a aussi dit la même chose. Il a expliqué qu'il était explosif, qu'il avait un peu un profil à la Mo Salah, et qu'il s'était très vite impliqué et avait eu d'excellents résultats sur le terrain, qu'il avait fait gagner les champions, c'était pas mal, et qu'il espérait surtout qu'il reste. Parce qu'il doit repartir normalement à Wolfsburg, qui est son club. Et donc, ils m'ont aussi dit autre chose. Ils m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas vraiment son engagement vis-à-vis des valeurs spécifiques du FC Saint-Pauli. Et donc ça l'a un peu froissé. Alors, je vais juste faire un petit retour. Il n'y a pas très longtemps, Justin Kingsley a donné comme exemple pour le rebrand de l'Impact le FC Saint-Pauli. Il ne faut surtout pas qu'il aille à Saint-Pauli. Parce que s'ils ont entendu son discours, il va lui arriver des bricoles, parce que c'est vraiment trahir toutes les valeurs du Saint-Pauli, qui est un club d'histoire, où c'est important. Autre difficulté, c'est que sur ses réseaux sociaux, il a mis le drapeau de l'Égypte, et donc, pour l'instant, il semble qu'il penche plutôt pour l'Égypte, mais bon, Canada a bien réussi à tirer Ferreira et Eustachio, les Portugais, les Néerlandais, et Corbin, nous, le Roumain. Je te passe la parole. Excuse-moi pour ce petit tunnel, Camille.
Oui, non, mais je pense que c'est bien de parler de ces joueurs qui partent à l'étranger, des binationaux, quelle sélection ils choisissent. Ça, peut-être que Alex, tu voudras dire un mot là-dessus, mais on a parlé pas mal football côté joueur et peut-être qu'on peut parler football aussi côté coaching. Est-ce qu'il y a des coachs étrangers qui sont attirés par le championnat égyptien et en particulier français ou francophones?
Il y a des opportunités aussi pour les coachs français et francophones.
Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui peut les attirer là-bas?
Les attirer là-bas.
En général, je veux dire, il y a beaucoup de coachs étrangers qui transitent par l'Égypte parce que c'est un championnat très compétitif. C'est un pays qui est agréable à vivre aussi, pour dire la vérité. Et en même temps, c'est un pays avec une ferveur où il y a vraiment une histoire, je veux dire, une histoire continentale. Et justement, en Égypte, les clubs égyptiens prennent vraiment au sérieux les compétitions continentales. Donc, je pense, par exemple, à Patrice Carteron, qui est actuellement le coach du Zamalek. Il vient de revenir au Zamalek après quelques mois d'intermède en Arabie Saoudite. Avant de revenir au Zamalek, Carteron a été entraîneur de Wadi Degla en Égypte et El Ahly. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très bien placé pour parler de ça. Et je sais que j'ai beaucoup de conversations avec lui. Et en général, c'est un pays qu'il apprécie énormément. Et c'est le même message que j'ai pu entendre avec d'autres coachs francophones. En général, ils sont toujours intéressés pour venir en Égypte. Et puis voilà quoi.
Oui, donc il y a, c'est vrai qu'il y a pas mal.
Et aussi, il y a un autre point que j'aimerais rajouter, c'est que en général, tous les clubs ont les moyens. Aujourd'hui, tous les clubs ont les moyens de ramener des coachs étrangers de gros pays. Et ça, c'est une donnée très importante, en fait.
D'accord. Mais je vois un peu l'heure qui tourne. Bon, et on ne peut pas quand même discuter, omettre de parler du foot féminin, c'est quand même très important. En regardant un petit peu ce qui se passe en Égypte, je trouve qu'on a un sentiment qui est un peu partagé entre d'un côté peut-être une présence de plus en plus importante des femmes dans le football à différents niveaux, que ce soit le jeu, les arbitres, l'entraînement aussi. J'ai vu qu'une femme entraînait une équipe d'hommes à Gizeh. Bon, alors c'est la 4e division, mais c'est quand même pas rien. Donc, d'un côté, voilà, cette place peut-être plus visible, et de l'autre, des réticences, voire pire, avec ce qui s'est passé en décembre, avec l'équipe des moins de 20 ans, qui, suite à un match contre le Liban, a eu une série a essuyé une série d'injures.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Sexiste, etc. sur les réseaux sociaux. Donc, on a le sentiment qu'il y a... voilà, on est un peu à la croisée des chemins. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce qui se passe au niveau des femmes dans le football aujourd'hui en Égypte?
Alors, au point de vue continental, je pense que l'Égypte est très avancée. C'est vrai que l'année dernière, par exemple, la CAF, donc la Confédération africaine de football, parlait de mettre en place une Ligue des champions féminine et tout ça. Et en Égypte, il y a un championnat égyptien. Enfin, un championnat féminin qui existe depuis plus d'une décennie, en fait. D'ailleurs, l'équipe championne en titre, c'est Wadi Degla. Wadi Degla qui la semaine dernière a assuré son 12e titre consécutif. Moi, j'ai eu la chance de faire plusieurs reportages, en fait, sur l'équipe féminine de Wadi Degla. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est une équipe qui c'est vraiment un échantillon de la société égyptienne. Donc, entre les femmes qui sont issues de familles pauvres et qui viennent du sud, ou à femmes qui sont, par exemple, issues de familles fortunées, des femmes qui sont éduquées. Enfin, vraiment, l'équipe de Wadi Degla, c'est vraiment un laboratoire très intéressant à analyser parce que, voilà, on trouve des femmes qui sont voilées, il y a des femmes qui ne le sont pas, il y a des femmes qui sont, il y a des binationaux, voilà, il y a vraiment toutes sortes de personnes différentes qui, dans la vraie vie, ne se côtoieraient jamais, mais sur le terrain, elles se côtoient toutes ensemble et elles gagnent en fait ensemble. Et donc, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai eu la chance de voir et de découvrir. Alors, c'est vrai que à l'époque, on me disait que il y a du chemin à parcourir, il y a du chemin à faire parce que des personnes qui passaient, puisqu'il y a beaucoup de gens qui s'opposaient à la pratique du football féminin, surtout pour certaines joueuses parce qu'elles étaient issues de familles conservatrices ou de milieux conservateurs. Mais au final, les gens s'habituent à ça. Et après, il faut dire aussi que d'un point de vue général, dans le sport féminin, il y a quand même beaucoup de champions, que ce soit dans la boxe, que ce soit dans l'heptathlon, que ce soit dans d'autres disciplines, le squash. Donc, les gens sont habitués à voir des femmes performer et représenter justement à l'international l'Égypte. Donc, je pense que ce qui s'est passé l'année dernière, envers l'équipe nationale d'Égypte, c'était un match contre le Liban. Je pense que c'est un cas quand même isolé parce que faut voir quand même les progrès qui ont été faits sur le terrain. Et après, voilà, Wadi Degla, par exemple, vient d'être sacré pour la 12e fois consécutive. Mais cette année, Wadi Degla a remporté le championnat à la différence. C'est quelque chose qui est nouveau. Avant, moi, à l'époque, quand je suis arrivé en Égypte, Wadi Degla remportait tous ses matchs, il n'y avait aucune concurrence. Maintenant, El Ahly s'est joint à la compétition. Gouna également, une équipe féminine. Enfin, il y a plus d'équipes féminines. Et le football féminin est en train de se structurer de mieux en mieux au fil des années. Et je pense qu'il y a vraiment un gros progrès en cours.
Les commentaires qu'on fait souvent en France, par exemple, c'est qu'il apparaît de plus en plus évident que pour se développer, une équipe féminine a besoin aujourd'hui de s'adosser à une équipe masculine. Donc pour Wadi Degla, je pense que c'est le cas. Est-ce qu'on voit les principales équipes masculines du championnat égyptien développer des équipes féminines ou c'est un petit peu des sortes d'équipes historiques de femmes qui progressivement se sont améliorées, participent au championnat ou...
C'est une bonne question. En fait, il y a des équipes féminines indépendantes, c'est-à-dire qui n'ont pas d'alter ego masculin. Après, pour Wadi Degla, c'est vraiment… Déjà, Wadi Degla, c'est une nouvelle équipe. C'est une équipe qui connaît sa deuxième décennie. Et c'est une équipe qui, à la base, voulait plutôt être dans la formation. C'est-à-dire mettre en place un centre de formation comme Europe et vraiment essayer de développer des talents tout simplement pour avoir une équipe compétitive, mais à travers des talents. Pendant que d'autres équipes voudraient se développer en achetant 1 million des joueurs déjà confirmés. Donc Wadi Degla, eux, quand ils ont mis en place leur académie, ils ont également voulu mettre en place parce qu'ils se sont dit que les femmes comptent également et il y a énormément de talents et ils voulaient vraiment être pionniers dans tout ce qui est centre de formation. En général, en fait, Wadi Degla, c'est une équipe qui a son équipe féminine qui performe beaucoup mieux que l'équipe masculine. Et ça a toujours été le cas. Donc, c'est plutôt le contraire. En fait. Et Wadi Degla, c'est une équipe qui, qui maintenant est impliqué dans le squash, qui est impliqué dans d'autres disciplines élitistes. Et il y a beaucoup de gens éduqués, justement, qui aujourd'hui, là, parce que voilà, ils veulent donner une éducation à leurs enfants, une éducation sportive de qualité, en fait. Et ils se retrouvent, justement, dans les valeurs assurées par Donc, après, c'est vrai que maintenant, les équipes historiques commencent à se dire que on peut faire une équipe féminine, parce que nous sommes des clubs historiques, c'est-à-dire qu'on est déjà populaires. Je pense notamment à l'Ahli. Nous sommes déjà populaires, donc on va pas avoir trop de difficultés à attirer des talents. Et l'Ahli reçoit énormément d'argent en termes de sponsors et tout ça. Donc, c'est des clubs qui sont déjà très bien structurés et très, très riches. Alors que Wadi Degla, ils dépendent d'un millionnaire, mais dépendant d'un seul homme. Donc, c'est différent. Donc, eux, ils essaient de rattraper, de combler leur retard en utilisant justement le fait que ce sont des équipes déjà établies, qui sont déjà... C'est pour répondre à ta question, c'est vrai qu'un club comme Al Ahly, par exemple, essaie de rattraper son retard parce que, voilà, nous sommes un club historique et on peut le faire. Et il y a des clubs comme Wadi Degla et bien d'autres qui, depuis longtemps, ont toujours misé sur les femmes ou sur le football ou le sport féminin.
Donc, ça passera peut-être plus par les clubs. Alors, parce que il m'a semblé voir que la fédération de football égyptienne, donc l'association égyptienne de football, bon, je sais pas très bien comment il faut le dire, mais c'était, enfin, il y a une sorte de comité de direction qui est passé de 5 à 3 personnes, et en particulier la personne qui s'occupait du développement du football féminin avait été évincée. Alors j'ai lu aussi, ça m'a fait sourire, qu'elle s'occupait du développement du football féminin, du football de plage et du futsal. Donc, je trouvais que ça m'a fait sourire, ouais, de voir les trois associés ensemble. Bon, en termes de, je sais pas, de sérieux ou de, oui, ça m'a, bon, voilà, je trouve que ça prête, ça pose question en tout cas.
Non, mais en tout cas, j'ai oublié son nom, il s'appelle docteur. On l'appelle en Égypte docteur Sahar.
Oui, c'est ça.
J'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois. Et alors. C'est un cas particulier. Elle est impliquée pour tout ce qui est le football féminin. Elle est vraiment impliquée depuis très longtemps. Et c'est elle aussi qui, enfin, parce qu'elle elle était à la FIFA à l'époque où je l'avais rencontrée. Donc, elle était membre de la FIFA. Donc, du coup, elle essayait de faire jouer de son influence pour développer pour forcer la Fédération égyptienne de football de mettre des moyens ou de mettre des moyens logistiques pour le développement du football féminin. Donc, en général, les joueuses ou les gens de l'équipe nationale étaient toutes unanimes à dire que son influence permettait justement de développer le football féminin. Par exemple, l'équipe nationale n'avait pas forcément de moyens, alors que l'équipe masculine a énormément de moyens. Donc voilà, c'est là où elle pouvait jouer son influence pour essayer de soutenir un budget ou d'autres moyens logistiques, en fait. Mais c'est vrai qu'après, en Égypte, il y a beaucoup de choses bizarres. Mais en tout cas, pour revenir à Dr Sahar, dans ce cas-là, en fait, le fait qu'elle englobe énormément de pouvoir, ça lui permettait de soutirer de ses homologues à la Fédération égyptienne de football des moyens logistiques ou financiers que la Fédération nationale féminine ne pouvait pas avoir sans elle.
Oui, de l'espoir alors.
Eh bien, on va conclure sur cette note d'espoir. Merci à Frédéric de nous avoir éclairé sur le football égyptien. On peut évidemment te retrouver sur Twitter. Je donne ton à commercial Nyanga, à commercial NYONGA. H. Merci Camille. On peut aussi te retrouver sur Twitter. Ton commercial, c'est Cordouan. C-C-O-R-D-O-U-A-N. Si vous voulez avoir un autre éclairage sur les huitrains d'Égypte, je vous recommande d'écouter le podcast de Tribune Urbaine sur la ville du Caire qui reçoit Anna Gassier et Julien Riffel, auteurs du webdoc Martyr, le destin des huitrains du Caire. Donc, ça a été fait par le magazine Caviar, qu'on peut féliciter pour ce superbe webdoc. Merci au Can Football Club d'accueillir le podcast. Qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes. Et enfin, pour conclure, j'embrasse et je salue mon fils Adrien. Merci encore, Fred. Merci Camille.
Merci encore.
À bientôt.
Merci Alex. Merci Fred.
Merci.